Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce 42e Weekly News. Cette semaine avec moi pour parler de l'actu, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Florent.
Coucou.
De retour de vacances.
Vous m'avez manqué, chers auditeurs chéris.
Cette semaine, nous allons parler de l'actu, bien sûr, avec entre autres chez DC une réponse à Angela qui revient chez Marvel, le nouveau costume de Spider-Man, et puis bien sûr plein d'infos indé, notamment Vertigo, du Topco, du Valiant et plein d'autres encore. Nous vous parlerons aussi d'un concours pour Geekopolis pour gagner vos entrées à ce superbe festival qui aura lieu le 25 et 26 mai. Le gros sujet de cette semaine sera consacré à Agent of S.H.I.E.L.D. qui se dévoile un petit peu plus puisqu'on ne sait maintenant que c'est sur ABC et qu'on a vu le premier teaser. Et enfin, nous aurons la partie Screen News avec toute l'actu ciné et jeux vidéo et la partie Comics.com où l'on répond à vos mails. Je suis Sylvie et vous écoutez le Weekly News. Comme chaque semaine, on commence avec le WhatsApp, nos dernières petites geekeries du moment. Et honneur à celui qui nous revient, enfin, Flo, qui nous a tellement manqué.
Oui, bah, moi, j'ai pas geeké, hein. J'étais en vacances. Alors, j'ai vu le soleil, j'ai vu la campagne. Et j'ai absolument pas geeké. J'ai juste pris une grosse pile de comics pour garder un peu le contact. Mais j'ai absolument pas geeké. Je suis allé voir Pulp Bordeaux. Et c'est un super magasin. C'est pas parce qu'on est partenaire, mais franchement, c'est un putain de magasin. Il est très très beau, très grand. Il y a plein de super bonnes choses dedans. Enfin voilà quoi. Si vous êtes dans la région, passez-y parce que c'est vachement sympa. En plus, il y a Hulk qui vient vous serrer la main. Qui vous incite, on va dire gentiment, à prendre des comics avec son poing gros comme trois fois ma tête. Non, c'est très très sympa. Et voilà, j'ai juste fait un petit peu de soleil et un peu de campagne, et c'est tout.
Est-ce qu'il a un point en armure? Est-ce qu'il a une armure autour de son point? Non, dommage, puisque ce week-end j'ai pu discuter d'une pratique, on va dire, fistfuckienne très particulière avec un ami. On imaginait un fistfucking avec un gant en armure, chose qu'on a gentiment appelé un Game of Thrones. Donc, voilà, j'ai une petite dédicace à Will. Je sais qu'il va écouter juste pour entendre parler de ce Game of Thrones. Et bien voilà, c'est fait.
D'accord. Et là, ça lui 5 minutes avant qu'on parle de fistfucking. D'accord.
On pourrait en appeler un le Hulk. Et là, j'aurais. Enfin.
Ah, ça doit faire très mal.
je veux pas savoir. Parce que...
C'est le fistfucking dont tu ne ressors pas vivant.
Hein. Celui qui est à la boutique.
Le point gamma fister.
Le fulgurofiste. Bruno, ton WhatsApp.
Alors mon WhatsApp, moi je suis retourné voir Iron Man 3, justement j'ai pu le faire découvrir à ma copine qui a beaucoup aimé le film, tout comme moi, comme quoi elle a très bon goût, contrairement à énormément de gens qui critiquent le film. Donc voilà, c'était un plaisir de le revoir, je me suis encore bien marré, j'ai adoré la mise en scène. Je vais pas revenir trop dessus hein, parce que j'en ai déjà parlé, donc mais très bon film, et qui mérite le fait qu'il approche maintenant du milliard d'entrées, enfin du milliard au box-office. Donc,
oui, parce que le milliard d'entrées, ça commence à faire beaucoup là.
Ça fait beaucoup, ouais. Mais donc voilà. Puis sinon, bah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, ce midi, je suis allé manger à l'Entrecôte et un de mes restos préférés de Bordeaux où je me suis régalé. Je me suis pris 3 assiettes de frites, mon record actuellement.
Donc, tu m'en as parlé, hein. On n'y est toujours pas allé.
Voilà. Bah, la prochaine fois, tu viendras sur Bordeaux.
La prochaine fois.
Et toi, Steve?
Pour ma part, j'ai maté enfin, Django Unchained ce week-end.
Ah,
et
Django.
J'ai adoré. Magnifique film de Tarantino. Enfin voilà, 2h45, ça m'a retardé pendant un bon moment avant de le voir, parce que me taper 2h45 de série ne me dérange pas, puisque bah voilà, c'est divers petits épisodes, tu peux faire une pause de 5 minutes entre deux épisodes, il y a pas de problème, tu vas pisser, tu fais ce que tu veux, et t'as pas la sensation de perdre 3 heures, alors que bah quand c'est un film, c'est d'un seul tenant, c'est plus délicat, et bah je ne regrette pas ces 2h45. Déjà premièrement, je les ai pas vus passer, et le film est vraiment génial. Un bon western qui mélange les codes traditionnels du western avec des codes plus modernes, notamment la musique.
Ouais.
C'était fait très particulier, de la musique actuelle sur un western, et finalement ça donne quelque chose de visuellement très agréable.
Puis Samuel L. Jackson, énorme quoi, en black raciste.
J'ai envie de le défoncer tout le film, mais bon.
C'était énorme.
Mais ouais, il le fait très bien, pareil, DiCaprio le fait très très bien, puis bon, le talent de Jamie Foxx quoi.
Ah oui,
on y croit tout de suite.
Il s'est donné à fond, hein, corps et âme, pendu, nu, avec la bite qui pend, fallait le faire quand même.
Quand il fait pas des mauvais films, il est plutôt bon, Jamie Foxx.
Bon, maintenant, j'attends de voir ce qu'il va donner dans le rôle d'Electro, mais bon, voilà. Je suis moins convaincu. En tout cas, ouais, superbe film et j'encourage tout le monde à le voir. Il est sorti en Blu-ray, donc jetez-vous dessus, c'est vraiment superbe. On va commencer maintenant les vraies annonces comics avec les brèves. Et on commence par DC, qui a décidé de nous faire une petite réponse à l'arrivée d'Angela dans le Marvel Universe, avec cette fois-ci l'arrivée des Masters of the Universe, donc de Musclor et compagnie, qui seront à la poursuite de Skeletor qui s'est échappé suite au dernier combat contre He-Man, donc Musclor en français, dans le monde de DC.
Ouais, donc il y a un super crossover... DC Masters of the Universe quoi. Donc ouais, bah ça annonce quelque chose d'assez décomplexé, on va dire. Moi j'attends ça avec impatience parce que je trouve que là, pour l'instant, entre la mini-série et l'ongoing, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font sur He-Man. La cover est bien. Voilà, c'est très joli, mais après ça risque d'être un peu on va dire un charme désuet d'un crossover comme ça un petit peu bas du front, mais pourquoi pas.
Ce sera écrit par Keith Giffen. Surtout dessiné par Dexter Soy.
Alors ça m'intéresse, parce que c'est spécial son style, mais sur du DC, ça m'intéresse de voir ce qu'il va faire avec.
Flo ?
Ouais, c'est spécial, c'est quelqu'un quand même très talentueux. Quoi. Enfin, ils n'ont pas mis deux
grappes de papier,
deux petites bousses pour faire un petit truc à la con. Quoi.
Moi, j'avais été subjugué par ce qu'il avait fait sur Captain Marvel, déjà. Sur ses premiers numéros de Captain Marvel, la claque.
On en parlait un peu figé, mais quand même assez cool, hein, assez graphiquement assez chouette.
Rappelons que ce sont ses premiers travaux professionnels, quoi, ce qui est quand même énorme.
Donc, voilà, par le pouvoir du crâne ancestral, quoi. Allons-y.
C'est une mini qui t'intéresse, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, ce sera une mini en 6 épisodes qui débarque en août. C'est une mini qui t'intéresse, toi, Flo ?
Oui, carrément, parce que j'avais bien aimé le premier numéro de l'Ongoing.
Tu avais parlé dans un Comics Weekly.
Ouais, c'est ça, j'avais pas compris grand chose, mais j'avais bien aimé. Et du coup, là, je vais m'acheter la mini qui va bientôt sortir en
TP.
En TP. Et donc, du coup, ouais, c'est plutôt marrant, quoi. Puis bon, c'est pas des manches, quoi, qui font ça, donc ça, c'est cool.
Alors, bon. Keith Giffen a parlé légèrement du projet, et surtout, il a dit que, grosso modo, qu'est-ce qui prouve que Skeletor a voulu venir volontairement dans le monde de DC ?
Oh oh. Oui, bon. Bah, y a un méchant de DC qui l'a attiré, quoi. On sait pas qui, mais peut-être.
Ah, moi, je dis, ça va avoir un truc avec la Légion, tu vas voir.
La Légion, je suis pas sûr.
Keith Giffen.
Ouais, peut-être, ouais.
C'est Pandora et ça sera un tag-in à Trinity War. ils vont fusionner l'univers d'He-Man avec, ils vont faire un flashback.
Oh là là, ça va être magnifique. Ça va être magnifique.
Pourquoi pas, après tout. C'est peut-être ça l'immense conséquence à Trinity War. C'est juste d'être en contre.
Voilà.
Voilà, ça serait beau.
Ou pas. On continue avec DC toujours qui, dans sa rubrique What's New in the New 52, nous a annoncé le retour de Cheshire. Ça vous laisse
Si, c'est cool. On sait que ce sera dans Redwood and the Outlaws. Donc, on sait qu'il y a un passif avec Roy Harper. Le design est assez classique, hein, on va dire, hein, très proche de celui qu'elle avait avant. Pas énormément de surprises de ce côté-là. Je pensais qu'elle allait peut-être avoir un masque comme elle avait dans Young Justice, comme ça avait pas mal plu au public, ce design. Mais donc voilà, c'est plutôt cool.
Masque qu'elle avait déjà eu aussi dans l'univers d'essai. Hein.
Ouais, un costume, ouais, c'est ça, c'est classique. C'est Brett Booth qui a dessiné le personnage, comme Bronze Tiger également, qui va revenir dans l'univers New 52. Oui, je regrette que ça soit pas plus proche de Young Justice, parce que j'avais adoré le perso dans la série animée. Et voilà quoi. C'est un personnage que j'aime bien. Donc j'ai hâte de le voir.
Reste à voir si son passif sera le même que celui que l'on avait dans la version pré-New 52, c'est-à-dire des liens plus que forts avec Roy Harper.
Bon, oui, ben, sachant que ça sort dans Redwood, ça sera peut-être un petit peu réinventé, mais bon, voilà.
Bon, espérons qu'ils gardent l'essentiel, parce que finalement, le lien entre ces deux personnages-là était plutôt intelligent, lié à un héros avec un vilain de cette façon-là était plutôt pas mal. Bon, qu'il y ait au moins un léger lien comme ça, quoi. Ce serait bien, bon, à mon goût. Bon. Reste à voir ce qu'ils vont faire. CDC, j'ai plus confiance. On continue toujours justement chez DC avec cette nouvelle cover de la deuxième partie, enfin du deuxième mois de Trinity War, puisque pour la première partie on a une cover en trois morceaux.
Panneaux, ouais.
Voilà, trois panneaux, c'est ça. Un pour Justice League, un pour Justice League Dark, un pour Justice League of America. Pareil pour le second mois. Et cette fois-ci, sur le dessin que l'on voit, qui n'est pour le moment que dessiné et ancré, on voit plutôt tous les héros ensemble.
Ouais. Voilà. Après s'être tapé sur la gueule, ça y est, ils vont tous vers le même but, à savoir vers une source lumineuse un peu mystérieuse. On s'attend à ce que ce soit peut-être la boîte de Pandore ou un truc comme ça.
Le classique crossover, on se tape sur la gueule et après on est potes.
Voilà, c'est ça. Et après c'est plutôt cool. Enfin, Doug Mankey fait une jolie, un joli triptyque, je trouve. Donc plutôt cool.
Ouais. On continue avec un secret de Polichinelle. Vraiment, ouais. Mais le secret de Polichinelle, tout le monde le savait. Wonder Woman Earth One arrive, scénarisé par Grant Morrison et dessiné par Yannick Paquette. C'était dit plus qu'à demi-mot, hein. On va dire que c'était à trois quarts de mot, j'invente de l'expression, je suis comme ça. Je suis un fou. et bien voilà, DC a confirmé officiellement l'arrivée de Wonder Woman Earth One sans donner de date. Voilà, bon, c'était le secret de Polichinelle, DC l'a enfin annoncé. Trois mois après la bataille, j'ai envie de dire, alors qu'ils auraient pu jouer un énorme coup en l'annonçant eux-mêmes bien avant. Dès que les premières rumeurs se sont répandues, essayer de frapper un grand coup. Non, il continue comme ça. Bon, je sais pas. Je cherche même plus à essayer de comprendre la communication chez DC parce que j'ai envie de dire, il y en a pas. Quoi.
Mais sur Internet, là, il y a un mème pas mal qui tourne sur DC justement, où il y a un site Internet qui a été créé avec un compteur marquant ça fait 2 jours que DC n'a pas fait une connerie. Voilà, tu peux changer et au fur et à mesure que chaque fois que DC fera une connerie, ils vont remettre le compteur à jour.
Et j'attends voilà. De voir le plus haut chiffre qu'ils pourront atteindre, mais je sais pas s'ils dépasseront les 10 jours.
Ouais, je sais pas. Faut que je retourne voir le site où ça en est, mais voilà.
Bonne initiative en tout cas. Allez, on va passer maintenant à Marvel et on commence avec le gros coup du moment. Hein. On nous avait annoncé des choses monumentales pour Superior Spider-Man. Eh bien voilà, Superior Spider-Man va changer de costume. C'est monumental. Ouais.
Alors bon, si c'est comme d'autres costumes qu'il a eu précédemment dans les arcs de Dan Slott, peut-être que ça va durer qu'un ou deux numéros. Mais voilà, un costume un peu proche de celui Iron Spider qu'il avait dans Civil War, avec des sortes de petites dendrites tentaculaires qui lui sortent du costume.
Bah ça lui fait carrément des pattes. Hein. Enfin je veux dire, gens comprennent pas que c'est Octopus quand même là.
C'est vrai.
Putain, les avoir ces preuves là, Carly, quand même, avec ça.
C'est pas très subtil, effectivement, mais.
Bon, ce sera au détour d'un run en deux parties qui s'appellera Run Goblin Run. Malheureusement, désolé pour la répétition. Ouais. Une histoire en deux parties. Donc, Superior Spider-Man numéro 15 et numéro 16, prévu pour le mois d'août.
Contre le Hobgoblin, donc.
Ouais. Y a pas que ces espèces de trucs dans le dos. Hein. On a aussi un costume qui est maintenant noir et non pas bleu. Ce que l'on peut voir notamment sur le Spider-Man Superior Spider-Man Team-Up ou sur la cover du Scarlet Spider numéro 20.
Il n'a pas les yeux dégueulasses qu'il avait là, les yeux tout ratés.
Il n'a plus des grandes bottes non plus, il a des espèces de trucs, de chaussures. Bon,
après,
de
chaussures. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne après, mais.
Bref. On continue avec l'univers de Spider-Man toujours et notamment Morbius. Morbius qui pourrait s'arrêter finalement. Et pourquoi pourrait s'arrêter? Puisque le TPB a été listé sur Amazon mais n'a pas de numéro, contrairement aux autres TPB de Marvel Now qui ont toujours un numéro 1, numéro pour quelques séries que ce soit. Morbius n'a pas de numéro, donc il se pourrait finalement qu'il n'y ait qu'un seul TPB et que bah ça comprenne l'ensemble de la série Morbus, qui pour le moment n'est teasé que jusqu'au numéro 9, en tout cas qui n'est sollicité que jusqu'au numéro 9, et on attend la sollicitation complète pour savoir si la série s'arrête ou pas.
J'ai envie de dire, il est mort, Bius.
Merci. Voilà. Merci pour cette intervention magnifique. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Une série qui se démarquait un petit peu des autres, qui avait un thème un peu plus indé, un peu typique de ce que l'on a chez Hawkeye. Moins drôle, c'est sûr, mais d'un ton un peu plus différent, plus street level.
Ouais, mais c'est pas non plus un personnage aussi connu que Hawkeye, quoi. Il n'y a pas eu encore le film Morbius, quoi.
Certes, certes, mais bon, enfin voilà, c'est dommage de voir. Bon, c'est le premier titre Marvel Now qui risque de s'arrêter.
Bah,
on attend la confirmation.
Il y a Gambit aussi qui risque de passer.
Gambit va passer l'arme à gauche, mais ça c'était déjà annoncé hein, depuis quelques semaines déjà. On savait que Gambit allait s'arrêter, mais Gambit n'était pas un véritable titre Marvel Now. On n'avait pas été lancé à cette occasion-là.
D'ailleurs, en parlant de ça, après, bon, ça reste juste une histoire de rumeur, mais il y a James Asmus qui avait posté un dessin. Non, c'est lui qui dessine Gambit, c'est ça. Il avait posté une image de New X-Men avec marqué New X-Men avec Brian Bendis, rendez-vous en automne. Et Brian Bendis a dit que non, en fait, il y a rien de prévu pour l'instant, mais ça semble quand même peut-être quelque chose, une future nouvelle série X-Men, peut-être plus tard. Donc, une fois qu'il aura fini Gambit.
On va continuer avec le design d'Angela, Flo.
Oui, c'est Joe Quesada qui Marvel a dévoilé le design d'Angela, donc qui va apparaître à la fin d'Age of Ultron et dans Guardians of the Galaxy, et donc un design par Joe Quesada, qui semble assez proche de ce qui a été fait par chez Image par c'est Greg Capullo, je crois, non,
c'est Mark Farlane, je crois, hein.
C'est Mark Farlane, oui, bah oui, c'était au tout début, excusez-moi.
Mais ouais, un design assez proche. Ils reprennent cette histoire de cette sorte de tissu en fait sur lequel il y avait des symboles marqués qui tournent un peu autour d'elle. Par contre, enfin, ça a quand même beaucoup moins la classe que la couverture de Spawn numéro 9, je trouve. Au niveau des ailes, par exemple, sur son casque. Et puis, elle paraît un peu plus lambda, je trouve. C'est moins détaillé. Ça fourmille moins de détails. J'étais un petit peu déçu moi en voyant ça. Je m'attendais à un truc un peu plus grandiloquent et voilà.
On a eu aussi un visuel de Sarah Pichelli d'Angela qui est très joli. J'ai vraiment hâte de voir Sarah Pichelli dessiner Guardians of the Galaxy. C'est vraiment très très beau.
Serais-tu en train de dire que Sarah Pichelli dessine mieux que Joe Quesada?
Clairement, quand on voit l'image qui est...
Tout à fait d'accord avec Flo, ouais.
C'est pas la cover, non, c'est juste une image qui apparaîtra dans Guardians 6 ou 5, pardon. Non, l'image est superbe, quoi. Ça a piqué l'idée.
On continue et on termine avec Marvel, puisque on en parlait dans le dernier Comics Weekly, le numéro 143, dans la section TPB de ce Avengers vs X-Men Companion. Il a été sollicité, on a appris quelques infos dessus de plus depuis la dernière fois, et notamment qu'il sera livré dans une grosse boîte cartonnée, pour déjà garder l'objet, qu'il fera au total 1112 pages quand même. C'est vraiment du gros bouquin. Et surtout qu'il y aura avec un poster et un code digital.
Oui, pour télécharger l'intégralité en version digitale du bouquin. Donc, bon, après, voilà, on en a déjà parlé. Il y avait des tie-ins d'AVX qui étaient pas mal. Tous n'étaient pas intéressants. Certains étaient meilleurs qu'AVX. Donc, bon, après, voilà. C'est quand même un gros objet un peu luxueux, on va dire.
Oui, voilà, bon, ça ne reste que des tie-in à AVX, mais pour quiconque a aimé ce crossover et a envie de découvrir les tie-in qu'il n'aurait pas eu à l'époque, par exemple, parce qu'il n'achetait pas toutes les séries, que ce soit New Avengers, Avengers, Uncanny X-Men, toutes les multiples séries Avengers, les 172 séries Avengers qui sortaient en même temps, voilà, c'est un bon moyen de les avoir à relativement peu cher, puisque ça fait, certes, c'est $100, mais il y a quand même 51 épisodes, quoi. 1112 pages, c'est pas rien. J'ai calculé, ça fait un petit peu moins de $2 l'épisode, donc ça reste un bon rapport qualité-prix, quoi. Surtout que c'est du hardcover. Il y a l'option digitale dedans, puisque c'est un limited edition print. Alors, faudra voir si toutes les envois.
Peut-être qu'après, ça va s'arrêter, ouais.
Se feront comme ça. Mais bon, voilà, vous pouvez très bien l'acheter à deux, comme d'habitude. Celui qui garde l'objet, je sais pas, moi, on paye deux tiers, et celui qui prend la version digitale paye un tiers, quoi. Ça revient vachement moins cher. Enfin, faut se débrouiller, quoi. Il y a moyen de réduire le coût. Donc voilà, belle initiative de Marvel. J'espère qu'ils continueront en tout cas de nous sortir des omnibus comme ça, parce que le poster, le digital, le petit slipcase, enfin le petit.
Si Marvel nous écoute, je veux un mallette, omnibus quoi. De Uncanny X-Force. Voilà.
Je vais faire mon Sam, mon Blue Bunny, mais la slipcase a l'air dégueulasse. Hein. Ça a l'air d'être un vieux carton tout pourri. Voilà.
Certes, mais en même temps, ça permet de protéger ton omnibus déjà, ne serait-ce que dans le transport.
Oui.
Ça fait toujours une petite boîte sympathique que tu peux mettre en évidence si tu la mets bien avec juste l'image de devant et que tu montres pas l'arrière, parce que c'est vrai que l'arrière est moche. Mais j'ai envie de dire.
Avoir un omnibus, j'avais commandé un omnibus et il était arrivé complètement défoncé dans un paquet justement parce qu'il était pas bien protégé et ça fout un peu les boules vu le prix quoi. Donc,
ce qui fait que là on a deux protections sur son omnibus, on a déjà la boîte d'entourage quoi qu'il arrive du marchand chez qui on le commande, si on le commande en ligne bien sûr, si on l'achète pas dans un comic shop, plus cette deuxième boîte qui protège en plus, donc voilà, je trouve que c'est quand même un joli packaging, ça mérite d'être signalé et j'espère vraiment qu'ils vont continuer en tout cas dans cet esprit là pour leurs omnibus futurs. On va maintenant passer à la partie un peu plus indé et on commence avec du Vertigo, puisqu'il y avait un panel à Bristol lors de la Bristol Comic Expo ce week-end, et on a appris notamment qu'il y aurait un préquel à Unwritten, un graphic novel, qui va être publié cette année, et voilà, on a pu voir déjà quelques pages. Apparemment, ça a remporté un grand succès, et surtout un préquel d'Unwritten, quoi.
Ouais, non, c'est intéressant. Ils ont pas mal parlé, ouais, de Unwritten, de Fable, du futur crossover aussi, qui aura lieu dans les pages d'Unwritten.
Ouais, entre Unwritten et Fables.
Donc, ils veulent vraiment que Unwritten soit une série un petit peu plus sur le devant de la scène, et ils veulent attirer un peu tous les lecteurs de Fable sur cette série, parce que voilà, il y a quand même de la qualité aussi à ce niveau-là. Donc, non, pourquoi pas, c'est une bonne initiative.
Allez, je vais faire le troll. À part Fables, Ferrust et Unwritten, il reste quoi en série régulière?
Eh bien, en série régulière, plus grand chose.
Il n'y en a pas d'autres.
Il y a Lono, c'est une mini.
C'est une mini.
The Wake, c'est une mini aussi.
Trillium de Jeff Lemire, c'est une mini aussi.
D'ailleurs, ce Trillium, ils ont indiqué quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que ça va sortir sous la forme d'un flipbook, c'est-à-dire que pour chaque personnage, il y aura une histoire qui sera de chaque côté du bouquin. Il faudra retourner le bouquin pour lire l'autre histoire. Et après, peut-être qu'au milieu, ça va se rassembler quand ils vont se rencontrer. Donc à savoir faire un petit peu quelque chose, ils vont utiliser à la fois le média et l'histoire, donc ça c'est une bonne idée je trouve.
Oui, rappelons que c'est une sorte de love story entre deux personnages qui ne sont pas du tout en même temps.
Voilà. De la même époque, ouais, exactement.
De la même époque,
donc,
ouais.
Et donc on aura chaque côté qui représente, enfin qui parlera d'un des deux personnages. Bonne idée, enfin voilà,
oui, ça, c'est
jouer un petit peu avec le format, c'est une bonne chose. Parce que malgré tout, j'ai envie de dire, il en reste plus que ça à DC, enfin à Vertigo. Essayer de jouer avec le format pour attirer, quoi.
Ouais.
Toutes ces annonces, Flo.
Oui, moi je suis content que ça bouge un petit peu chez Vertigo, parce que je lis en TP, je lis pratiquement que de ça. Tout mon retard en termes d'histoire des comics, se porte quasiment uniquement chez les chefs-d'œuvre de Vertigo. Donc je suis content que ça bouge. C'est bien. Il y a quelques annonces sympas. Je suis pas aussi négatif que Bunny par exemple, qui n'est pas là, donc je peux dire du mal de lui.
Que moi aussi, hein, de toute façon, parce
que toi, mais je dis du mal aussi.
En nous annonçant aucune nouvelle série régulière, de toute façon, c'est clairement la preuve que la marque est morte, quoi.
Ouais, attendons la Comic Con, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir annoncé de nouveautés.
J'ai envie de dire. J'ai pas envie de te péter ton rêve, mais je crois que tu risques d'être fortement déçu. Une anthologie American Vampire, tu nous dis ça, Flo, sur notre système de messages?
Oui, tout à fait, sur notre système très très avancé.
Notre site exclusif que l'on a développé uniquement pour Comic City, quoi.
Du 14e ouais. Millénaire.
au moins
Vertigo a teasé sur son compte Twitter, parce que oui, Vertigo a un compte Twitter, Vertigo n'est pas mort, je vous dis. qui aurait un numéro qui va sortir au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, un numéro anthologique d'American Vampire, donc qui va faire suite au one-shot coécrit entre Scott Snyder et Raphaël Albuquerque, qui devrait sortir au mois de, aidez-moi, juin ou juillet.
Je sais plus le mois exact.
Et donc, ils vont sortir une anthologie de 80 pages, rassemblant un petit peu, donc co-écrite
toute, et co-dessinée. Toute la série, il y a une page de comic par numéro.
co-écrite par et dessinée par Scott Snyder, Raphaël Albuquerque, Greg Rucka, Declan Chalvet, Sean Murphy.
Putain, il y a du monde.
Il y en a.
La crème de la crème.
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres très très beaux. Et j'ai plus là. Ça sort comme ça de ma mémoire, donc j'ai pas.
Mais
j'ai pas tout,
oui, voilà.
J'ai
ils essayent de faire en sorte que les gens n'oublient pas American Vampire entre la petite petit one shot qui sort bientôt, cette anthologie, parce que comme on sait que Snyder a pris une pause là d'un an à peu près sur American Vampire.
Il y aura Francesco Franca. Oui, voilà. Pardon. En fait, Scott Snyder et Raphaël Albuquerque seront absents. Il y aura donc Greg Rucka, Gail Simon, Becky Cloonan, Jeff Lemire, Ray Fawkes, Francesco Francavilla, Declan Chalvet, Gabriel Gba et Fabio Moon. Ce sont les premiers annoncés et a priori.
Oh, putain, il y en aura d'autres en plus.
Il y aura d'autres annoncés. Voilà.
Ah, c'est énorme. Il y a vraiment un sacré paquet d'artistes ultra talentueux, plus talentueux les uns que les autres. C'est vraiment énorme.
Voilà, donc ça sera probablement pas des histoires, des histoires très importantes pour l'histoire d'American Vampire, mais en tout cas c'est une initiative vraiment sympa en attendant que la série reprenne. Voilà.
Donc ah bah c'est plutôt cool ça.
On restera, ça sortira le 7 août a priori, et merci à nos amis de DC Planet pour avoir sorti ça du compte Vertigo de Twitter que personne ne suit.
Ben, merci à toi parce que j'étais passé complètement à côté de cette info.
Oui, c'était une toute petite info qui a passé un petit peu à la trappe.
Voilà. En même temps, je vais sur Twitter tous les 36 du mois, donc bon.
Donc voilà, Vertigo n'est pas mort.
Mouais. J'ai envie de dire que c'est le dernier sursaut de la bête, moi, mais bon. Ah. Allez, on continue avec du Topco maintenant et Ron Martz qui va revenir sur Witchblade après avoir fait les beaux jours de Witchblade pendant très longtemps. En être parti depuis maintenant 2 ans pour s'être consacré à d'autres projets, notamment le superbe projet Ravine, magnifique graphic novel, magnifique série de graphic novels. Eh bien, il revient cet automne sur Witchblade à partir du numéro 170 et prendra la suite de Tim Seeley qui écrit actuellement le titre.
Et je peux dire quelque chose? Un Martz et ça repart.
On va passer à Valiant. C'est horrible. Valiant qui a annoncé que Bloodshot, la série Bloodshot, suite au crossover Harbinger Wars, devrait changer de titre à partir du mois de septembre, à partir de son numéro 14, et devrait s'appeler Bloodshot and Hardcore. Et oui, la série Hardcore refait son grand retour chez Valiant, dans la série Bloodshot, puisque c'était quelque chose que l'on avait déjà dans le premier univers Valiant.
D'accord. Ah, voilà. C'est intéressant, ils continuent à ajouter un petit peu des choses à leur univers, revenir un petit peu sur des anciennes choses aussi, donc non, c'est
tout,
cool.
Tout en modernisant bien sûr l'ensemble. Ce sera par Christos Engage, Joshua Dysart et Emanuela Lupacchino. Donc joli, joli casting.
Tout à fait, et une jolie cover de J.J. Jones pour Bloodshot
oui.
14.
Ouais. Voilà. Non mais franchement, il y a vraiment des choses qui se passent chez Valiant, ça débarque bientôt chez Panini, à surveiller de très très près si vous voulez un univers un peu plus frais, un peu moins ancré dans une certaine continuité.
Ouais, c'est bien écrit et c'est cool. Surtout pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers Valiant, moi j'y connaissais rien.
Oui, puis c'est totalement ancré. Enfin voilà, on peut l'appréhender si on ne connaissait rien et on voit les petites références si on avait déjà lu Valiant avant. Voilà, et puis c'est superbe aussi. Enfin, je veux dire, les artistes qui sont choisis en général sont vraiment très joli, c'est du très bon comic.
Tu parles de Lupacchino?
Non, je parle de l'ensemble de la production Valiant. Les artistes qui sont dessus sont vraiment de superbes artistes, quoi. Les pages intérieures sont magnifiques.
Ouais, c'est vrai.
On va passer maintenant chez Boom. Et oui, on va parler de Boom.
Un autre studio qui a le vent en poupe.
Qui a fait une acquisition, Bruno.
Oui, une acquisition, enfin, c'est-à-dire il y a un retour de Frank Miller qui va revenir chez Boom pour parler de Robocop, puisqu'il va y avoir un nouveau comics à partir de août 2013, qui sera a priori chapeauté par Frank Miller, mais bon, à mon avis, il sert juste un peu de prête-nom, mais en tout cas, il sera en duo avec Steven Grant pour le scénario, et je crois qu'au niveau des dessins, ce sera Korkut Ostekin et Declan Chalvet, donc le retour de Robocop avec Frank Miller... Ça peut être chouette, ça peut être chouette.
Frank Miller qui revient sur Robocop, ouais, c'est surtout ça, parce qu'il a quand même déjà pas mal écrit.
Il avait fait le scénario de Robocop 2, pas terrible, mais...
Bon. Non, mais il avait fait le scénario de Robocop 2. Il avait aussi participé au scénario du 3, ils l'ont tellement modifié qu'il a décidé de ne pas apparaître au générique. Hein. Il a demandé à ce que son nom soit retiré.
Valait mieux.
Ah, je me retiendrai toujours les robots samouraïs et le Robocop qui s'envole avec son jetpack.
Mais en tout cas, si, Robocop dessiné par Declan Chalvet, ça peut être cool, quoi.
Declan Chalvet, artiste qui monte énormément, et c'est très très bien pour lui, puisque c'est un artiste très talentueux lui aussi.
Ouais, exactement.
Ça s'appelle Robocop Last Stand.
Ouais.
C'est peut-être le Last Stand de Frank Miller aussi.
Je veux pas rebondir, je vais être méchant après, donc. On termine la partie brève qui s'avère décidément très très longue. Puisque Judd Winnick a décidé d'annoncer un petit peu plus, enfin de parler un petit peu plus de son projet Hi-Lo, un projet de graphic novel pour tout âge et notamment pour les enfants en particulier, puisque Judd Winnick a décidé de quitter Catwoman, on le savait, hein, il quitte tout le mainstream classique. Il a signé un deal avec Random House pour déjà 3 premiers volumes et il pense faire 6 volumes de son histoire. Pourquoi il est parti faire cette histoire et a quitté le mainstream, ça vient tout simplement de quelque chose, enfin moi qui m'a personnellement qui m'a touché, c'est que il a son fils qui a 6-7 ans, quelque chose comme ça, lui a demandé quel comics de son père il pouvait lire, quoi. Il a demandé: papa, qu'est-ce que je peux lire de ce que tu as écrit? Et il a dit rien. Rien du tout. Aucun de mes travaux que j'ai fait ne peut être souhaitable à mon fils, en tout cas à son âge. Et donc il a décidé de finalement d'écrire quelque chose, parce que ce qu'il a donné à son fils à lire, c'est Bone de Jeff Smith, hein, classique parmi les classiques. Son fils a adoré, est devenu super fan. Voilà, il a acheté les jouets de Bone, il a acheté les t-shirts Bone pour son fils qui est devenu très très fan. Et il s'est dit, c'est franchement très con que moi je puisse rien offrir à mon fils en termes
d'écriture.
Pourtant,
Bone, ça veut dire érection en anglais. Hein. Pas top. Hein.
Oh, c'est une honte quand tu sais ce que c'est de dire ça. C'est horrible. C'est horrible. Bref, il a décidé donc de faire son graphic novel, Hi-Lo. Hi-Lo, c'est donc l'histoire d'un gamin qui s'appelle DJ, qui est un petit gamin classique, mais son meilleur ami qui était son voisin déménage, il se retrouve sans personne et tombe dans son jardin, tombe du ciel un gamin nommé Hi-Lo, et donc il va devenir son meilleur ami et ils vont vivre tout un tas d'aventures monstrueuses, plus folles les unes que les autres. Alors il a essayé de définir un petit peu ce que c'était. Il a dit que ce serait en partie que je retrouve mes notes, je suis complètement à la ramasse. En partie,
il y aura des hauts et des bas.
Oh là, ça c'est beau, ça c'est très très beau. En partie Doctor Who, en partie, mais j'arrive plus à retrouver, c'est complètement fou. Je suis perdu dans mes notes. Enfin bon, bref, plein d'inspirations qui sont pas forcément les plus logiques les unes entre les autres, mais qui, moi en tout cas, me donnent vraiment envie de découvrir. Voilà, à moitié, en partie E.T., en partie Doctor Who et en partie Peanuts et Calvin et Hobbes.
D'accord, voilà. De bonnes références.
De bonnes références, exactement. Moi, ça me donne vraiment envie d'aller voir ce qu'il a fait, parce que c'est Judd Winnick qui est un bon scénariste, qui n'a pas forcément toujours le potentiel pour pouvoir s'exprimer, retenu par des studios. Et voilà, une histoire un peu plus pour enfants peut-être, mais en tout cas qui s'avère assez intéressante. Je sais pas si ça vous donne envie ou pas du tout.
Pas spécialement, mais tu nous en parleras, et puis si ça nous séduit, on tentera.
Ok, on continue et on passe maintenant à une autre partie, c'est le concours Geekopolis. J'en parlais en intro. Alors, vous le savez peut-être, Comic City est partenaire de Geekopolis, le festival dont vous êtes le héros, qui se tient à Montreuil les 25 et 26 mai. À cette occasion, nous organisons un petit concours qui vous permettra de remporter 5 passes pour les 2 jours. Je précise bien que c'est pour les 2 jours. Alors, vous demandez sûrement, qu'est-ce que Geekopolis ? Geekopolis est un festival regroupant l'ensemble des cultures de l'imaginaire et qui a surtout la particularité d'être divisé en 5 quartiers distincts. Je vous rassure tout de suite, vous avez bien accès aux 5 quartiers et aux 5 univers avec la même entrée. Voilà, vous vous inquiétez pas. Alors, ces quartiers, on va les détailler. On a Little Tokyo, qui sera donc plutôt centré sur la culture japonaise traditionnelle et moderne. On a Metropolis, qui sera plus comics et science-fiction. Nautilus, qui sera steampunk. Avalon, qui se basera surtout sur le médiéval fantastique. Et enfin, Tech Lab, spécialisé dans la technologie, robotique et la science. Alors bien sûr, comme tout bon festival, Geekopolis aura son lot d'invités. Entre autres, alors je vais pas citer tout le monde, hein, bien sûr, mais on a Alexis Briclot, Alex Nikolavitch, Jean-Marc Lenné, notre ami Kevin Enhart, Roland Boschi, évidemment, la WIP Agency sera présente. On aura aussi Philippe Cardona et Florence Torta. Mais il n'y aura pas que des artistes de comics, hein, il y en a pour tous les goûts, hein, puisque avec tout ce que j'ai cité, vous vous doutez bien que ça touche un petit peu tous les univers. On trouvera aussi des gens comme Pen of Chaos, comme Narf, Noob, la Flanders Company, le Visiteur du Futur. L'immense, et je dis bien l'immense, Michael Moorcock sera présent. C'est enfin celui qui a écrit Elric, quand même. Puis bon, il y en a vraiment tellement d'autres que je passerai au moins une heure à citer tout le monde. Donc je vais m'arrêter là, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir un petit peu plus les invités. Et puis vous aurez aussi, lors de ce week-end, beaucoup d'événements, des dizaines de conférences, d'expositions, de concerts, des projections. Notamment, on aura des conférences sur les langages développés par Tolkien. On aura aussi une conférence sur l'histoire de la série de Doctor Who, une conférence sur le cosplay. Vous aurez en exclusivité, là, les premières 30 minutes du film Les Seigneurs d'Outre-Monde, qui est un projet qu'on avait pu découvrir déjà lors du Comic-Con 2011. Qui est tenu par, enfin, dont ou sur lequel participe un de nos auditeurs que l'on aime beaucoup, Fenris. Ils vont diffuser les 30 premières minutes de leur film en exclusivité. C'est vraiment à ne pas rater. C'est un film d'heroic fantasy. Voilà, c'est vraiment des gens bénévoles et qui sont vraiment passionnés qui ont fait ça. Et c'est de toute beauté. Les effets spéciaux, ils ont vraiment mis un paquet sur les effets spéciaux. C'est vraiment superbe. Donc ne le ratez pas. Vous aurez aussi un concert de Pen of Chaos et de Nahal Bund. Il y aura encore vraiment plein d'autres choses. Il y a des expos, il y a des conférences. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Quel que soit l'univers imaginaire que vous aimiez, vous pourrez retrouver ce que vous adorez. Alors pour pouvoir participer au concours, bah, franchement, c'est très simple. Vous pourrez gagner un des 5 passes qui sont mis en jeu. Un pass donc de 2 jours, hein, je le rappelle, vous aurez accès et le samedi et le dimanche. Alors, vous allez sur la page Facebook de Comic City, vous cliquez sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait, et puis vous partagez tout simplement le statut où l'on parle de ce concours. Le tirage au sort aura lieu lundi 20 mai, et vous recevrez votre invitation par message privé. On vous contactera directement en vous donnant l'invitation qui est à imprimer puisqu'elle contient un QR code qui sera flashé à l'entrée. Et puis voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, c'est le 25 et 26 mai à Montreuil, au Palais des Expos de Montreuil. Et vraiment, gros festival. Voilà, je vous invite déjà à participer au concours si vous voulez gagner un des 5 passes, et puis surtout à vous rendre à ce festival qui promet d'être super intéressant. On va passer maintenant au gros sujet de la semaine. Le gros sujet de la semaine, c'est Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui a enfin été approuvé par ABC. Bon, on va faire un petit peu de cassage hein, quand même maintenant, puisque clairement, ABC étant une chaîne qui appartient à Disney, je vois pas comment ils auraient pu diffuser cette série ailleurs que sur ABC, honnêtement. Bref, le premier teaser est passé à la suite du dernier épisode de Once Upon a Time ce dimanche aux États-Unis. On a pu voir le teaser. Bah, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, j'attends ça avec impatience. Hein. Disons qu'ils savent bien faire le boulot, quoi. Ils ont, en 30 secondes, ils ont. Déjà, on a plein de questions, puisque effectivement, ça faisait pas mal de temps qu'on avait des rumeurs comme quoi Coulson reviendrait dans cette série. Effectivement, il est présent, on le voit, il a l'air d'avoir un rôle clé, au moins dans le pilote. Donc tout de suite on a ces questions, il est mort, il est pas mort, qu'est-ce qui s'est passé? On voit également un personnage super-héroïque dans le teaser, quelques secondes. Alors tout de suite on peut faire des suppositions sur qui ça peut être et tout. Donc franchement ils ont bien fait une bonne petite vidéo. J'aurais aimé en voir plus. Et bah pour eux c'est tout bénef quoi, ils vont pouvoir introduire des nouveaux personnages dans leur univers et puis qui sait après on aura peut-être des petits caméos dans les films. Donc non, c'est cool quoi.
J'ai pas plus à dire pas tellement plus à dire que Bruno. Ça donne très très envie. Le petit caméo qu'on a l'air de voir d'un super-héros Marvel, bah on peut le dire. Hein, pour moi, c'est Luke Cage. Je veux
Ah bah
dire,
oui,
on voit un
ça
grand
sent Luke
black
Cage quoi.
habillé streetwear qui a l'air plutôt de casser, de péter des murs et d'avoir une peau à peu près indestructible. Bon bah voilà quoi.
Ça pourrait être logique étant donné que Marvel vient de récupérer les droits de Power Man. Power Man avait été optionné par un des studios de Sony, si ma mémoire est bonne. Et là, ils ont récupéré les droits récemment, comme pas mal d'autres droits de super-héros qui sont revenus. On en parlait la semaine dernière. Donc effectivement, ça pourrait tout à fait coller.
Voilà, enfin, y a le fait d'avoir une série un peu à gros budget, surtout si elle marche, enfin, je ne doute pas qu'elle marche, si elle est de qualité, ça permet quand même de faire beaucoup d'expérimentations avec l'univers cinématographique qui partage celui d'une série télé. Enfin, ça peut être très très riche, quoi. C'est ça qui donne vraiment envie, quoi. Puis voir Coulson, c'est cool. Donc je sais pas s'il est mort, s'il est pas mort, je sais pas si ça se passe avant ou si c'est juste le pilote qui se passe avant Avengers ou je sais pas quoi. Mais moi ça me plairait bien de voir Coulson comme personnage central de la série tout au long de la saison. Parce que on le voit beaucoup dans le teaser et clairement c'est lui qui donne envie, quoi.
Il y a quand même un petit problème, c'est que s'il est mort et qu'il n'est là que dans le premier épisode, étant donné que, vu les images que l'on voit, que ce soit le petit teaser comme le trailer, comme on a pu voir aussi le trailer d'une trentaine de secondes, où il est clairement central, en tout cas dans ce trailer, le problème c'est que s'il n'est là que dans le premier épisode, ça va être publicité mensongère et ça risque de gueuler, quoi.
Ah oui, mais
D'autant
bon,
plus
là.
qu'il il est au centre du poster aussi, donc.
Ben oui.
Donc ouais ça. Mais non, mais après j'avais posé une petite question sur Twitter à nos auditeurs, savoir ce qu'ils en pensaient, s'ils attendaient la série avec impatience. Et tout le monde parle justement du fait qu'ils sont excités par le fait que Coulson revienne. Et ils sont plusieurs en plus à évoquer le fait que ce serait peut-être cool que pour rester en continuité, bah je sais pas, qu'il y ait peut-être un Extremis qui soit impliqué dans le fait qu'il soit encore en vie. Bon voilà. Après, est-ce que, en fait, hier j'ai revu Avengers. Et en fait, on voit les médecins arriver pour le récupérer quelques instants après on ait eu l'impression qu'il soit mort. Ils ont très bien pu peut-être réussir à le réanimer derrière et puis que Nick Fury en fait a utilisé juste sa mort comme pour pouvoir rassembler l'équipe. Mais
Oh bah, excusez-moi, mais dans les comics, il y a eu pire comme retour à la vie,
ouais,
hein. Ça
exactement. Ouais.
pourrait se voir sans aucun problème.
Certes, dans les comics, mais dans le milieu de la série télé ou du cinéma, c'est pas quelque chose de fréquent. Même si pour nous, on est habitué, je vous invite peut-être à vous reporter au débat que l'on avait sur la mort dans les comics, dans le Comic City 75. Effectivement, les gens des autres médias, et principalement les gens qui ne connaissent pas forcément les comics, seront peut-être un peu plus choqués. Bon, on avait aussi eu des rumeurs, hein, fut un temps que Coulson pourrait revenir en tant que Vision.
Oui, alors ça, c'est oui, c'est vrai. Mais c'était un peu ridicule, ça, mais
Oui, clairement. Non, non,
d'en
ce que
faire
je
un
veux dire.
androïde, bon, bah, un androïde à tête de Coulson, quoi.
Ou un live modèle decoy, mais
Ouais, un LMD, c'est possible aussi.
surtout que ce terme est déjà utilisé dans les films, donc ça existe peut-être, mais
Ce
enfin.
que. Non, non, mais j'y crois pas. Pour moi, il revient et puis c'est tout. Il faut pas se faire chier.
Il revient parce que il s'en est sorti, et puis voilà, quoi.
Voilà, c'est tout. Non, je veux dire, au niveau publicité mensongère, rebondir sur ce que tu disais, Steve, sachant que le pilote a été validé par la chaîne et visionné, etc., évidemment, il y avait peu de doutes que ça marche pas, moi vraiment, qu'ils mettent des branques sur la série, mais a priori, ils voient quand même où va aller la série, ils voient que l'agent Coulson est un élément vendeur, s'il restait que pour le pilote. Ça, à mon avis, la série, voilà, marcherait moins bien. Et s'ils le mettent au milieu de la photo sur la série, c'est que voilà, ça va être un personnage central a priori. Je pense que
Non, non, puis ça c'est.
ABC le signerait pas pour une saison complète si Coulson apparaissait que dans le pilote et tout en étant au milieu de la photo, quoi. Ça serait un non-sens.
Non, et puis bon, si on a Luke Cage, c'est cool. Peut-être que plus tard on aura Squirrel Girl aussi, donc ça pourrait
On
être
aura
chouette.
peut-être enfin cette fameuse série Alias, un jour.
Ou Alias, ouais, c'est vrai. Bah du coup là, c'est le moment de l'introduire, hein, le personnage d'Alias.
Non, bah non. avec Power Man dans le casting, si tu introduis Alias, tu sais tout de suite que ça va tourner X, quoi. Lisez Alias, vous comprendrez. Bref, c'est quand même une série qui est vraiment attendue. J'aimerais bien savoir le prix du spot de pub, des 30 secondes de pub, honnêtement.
Ouais, puis les tournages...
Pendant la diffusion,
quoi,
en tout cas... Non, mais pendant la diffusion du pilote, une série qui est quand même sacrément attendue, j'aimerais bien savoir le prix du spot de pub. Je suis sûr qu'on ne sera pas au sommet que l'on est avec le Super Bowl, mais je pense qu'on doit être sacrément haut, parce qu'il y a quand même une sacrée attente vis-à-vis de cette série.
Par contre, je fais une supposition, je suis sûr que ça va être la série la plus piratée de tous les temps. Ça, c'est bon, quoi.
À moins. Et là, ce serait peut-être une chose...
Un gros coup.
Un gros coup à faire. Sci-Fi l'a fait avec Defiance cette année. On ne parle pas de la qualité de la série, peu importe. Le fait de diffuser le lendemain de la diffusion américaine en VF sur une chaîne, bon, certes, c'est Sci-Fi, une chaîne qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais en tout cas, il y a une diffusion française le lendemain de la diffusion VO.
Ah, ça serait un gros coup à faire, ça.
Bah, comme, et sachant comme, que c'est une diffusion qui est en VM, quoi.
Comme une série avec Game of Thrones, quoi.
Ouais, mais là, c'est de la VOD, Game of Thrones. Si ma mémoire
il
est
me
bonne.
Semble, non il me semble, ouais. Ça, il me semble que c'est de la VOD et que c'est pas diffusé. T'es sûr? Après, ça, j'en sais rien.
Ah, bah, ou alors peut-être, je sais pas, moi, étant donné que je n'ai pas Orange Cinéma Série chez moi. Je peux pas certifier. Voilà, les auditeurs nous rectifieront de toute façon si on se trompe. Effectivement, soit c'est peut-être de la diffusion le lendemain, mais ou alors c'est de la VOD comme ce qui avait déjà été fait sur certaines chaînes comme TF1, France 2 ou M6. Cette diffusion le lendemain en VO sous-titré, mais en VOD, donc à 1,99€ l'épisode, ce qui fait quand même relativement cher. Mais là, s'ils nous font une diffusion VF le lendemain sur une chaîne, ils ont tout gagné, ils éviteront le piratage, ils vont faire des scores d'audience monstrueux. Ah, je sais pas. Pour moi, c'est un modèle à exploiter, quoi. Il y a de quoi faire. Les épisodes sont faits en général 2 à 3 semaines avant minimum.
Ça se rapproche d'un modèle cinéma, c'est ça. Ça donne un impact mondial.
Surtout que. Surtout pour s'il y a des clins d'œil dans les films, si on se retrouve avec un retard d'un an entre la sortie série et les films dans d'autres pays, du coup. On va y perdre pas mal. Donc, ouais, c'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qu'il faudra mettre au point, quoi.
Après, rien ne nous empêche de rêver, sachant que les derniers films Marvel sont sortis avant en France, et d'ailleurs dans d'autres pays du monde qu'aux États-Unis. On pourrait très bien avoir une diffusion, genre la même semaine. Bon, je ne sais pas quel jour ABC va choisir de diffuser la série, mais admettons qu'il la diffuse, par exemple, je ne sais pas, le mercredi soir. Rien n'empêche que la diffusion soit faite en France, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou je ne sais dans quel autre pays. Par exemple, le mardi ou le lundi. Et avoir une journée d'avance.
Ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas. Enfin, c'est une série qui est vraiment ultra attendue et qui risque de faire un carton monumental. Donc.
Mais là, en tout cas, c'est clair qu'ils auraient un gros coup à jouer. Espérons qu'ils jouent cette carte et qu'ils ne nous laissent pas sur le bord de la route, parce que bah, c'est un peu con, quoi. S'ils veulent perdre de l'argent à être piratés, bon, après, c'est leur choix. Hein. C'est surtout les chaînes françaises qui vont perdre de l'argent, je pense. La chaîne française qui achète ça va faire un max de fric. On voit bien de façon avec le score d'Iron Man 3 en France, le score est quand même relativement bon, il y a forcément un public pour aller voir ça. Le score d'Avengers était très bon aussi.
Et c'est moi ou pendant le petit trailer de 30 secondes, on voit des images de Paris ou d'une ville française?
Oui, il y a un passage à Paris, effectivement.
Voilà, c'est d'accord. Okay.
Il y a un passage à Paris.
Eh ben, du coup, en plus, voilà, faut qu'on l'ait avant tout le monde.
Ouais, on le mérite, hein, après tout.
On le mérite.
En tout cas, bon, on n'a pas de date encore officielle ni de jour de diffusion officielle. Mais bon, nul à parier que ça va être très très rapidement annoncé, puisque maintenant c'est clair, ABC a acheté la série, l'a officialisé, donc voilà.
A priori, c'est pour la rentrée, quoi.
Oh oui, ce sera pour la rentrée, oui. À moins qu'on ait une saison de 12, parce que j'ai pas vu de chiffre d'épisode annoncé de 12 ou 13 et qu'elle soit diffusée plutôt au printemps. Après le break d'hiver.
Je pense pas. En tout cas, ça a eu plus de chance que. Petite transition.
Ouais.
Six Gun.
Ouais, transition vers la partie Screen News. Eh ben justement, Six Gun, qui devait être acheté par NBC, eh bien a été refusé, malheureusement, puisqu'il trouvait que la série tenait sur le pilote, mais que par la suite, ça s'étouffait.
Ouais, c'est un peu dommage parce que tout de suite tous les gens s'étaient un petit peu emballés en se disant une bonne série un peu dans le milieu western, ça pourrait être cool. Et bah encore une fois, comme d'autres séries avant, on a eu droit à Lock and Key, on a eu droit à Powers, on a eu droit à Chew, on a eu droit à d'autres séries comme ça qui avaient été annoncées comme peut-être ayant droit à une adaptation
Mais
série. Et...
justement, Alias, hein, qui devait
Ouais,
être
et
acheté par
Alias aussi, ouais.
NBC.
Et Hulk, qui devait
Ah oui,
revenir en série,
la
pareil.
Arlésienne.
Mais donc voilà, bah c'est dommage pour Six Gun.
Alors, tout n'est pas perdu pour Six Gun. Apparemment, peut-être qu'il pourrait essayer de reproposer le projet à Showtime, chaîne du câble, ce
Ouais.
qui correspondrait peut-être plus à la cible. Bon, c'est dommage, NBC veut pas prendre des risques, mais NBC est en train de se casser la gueule depuis des années, il serait peut-être temps qu'ils réagissent en essayant de s'ouvrir à des projets un peu plus intéressants, parce que les scores d'NBC depuis quelques années sont vraiment vraiment en baisse, quoi. Bon, tant pis, on ne verra pas, en tout cas pour le moment, Six Gun, en tout cas pas cette année, peut-être l'année prochaine. On vous en reparle dès qu'on a plus d'infos. Continuons sur une autre série, une série geek qui n'est pas à tendance comics, mais dont, sur laquelle on y fait beaucoup de références, c'est Robot Chicken. L'année dernière, on avait eu le droit à un spécial DC, eh bien, ils vont remettre le couvert.
Ah, excellent, parce que en septembre dernier, ce numéro-là, c'est la première fois que j'ai regardé un Robot Chicken, et c'était vraiment excellent, avec beaucoup d'humour. Une histoire qui était centrée sur un Aquaman bien loser, et c'était vraiment très drôle.
En tout cas, donc pour ce deuxième spécial de DC Comics, eh bien, ce sera en 2014. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour la prochaine saison. Et Geoff Johns devrait venir aider à nouveau, comme sur le premier.
D'accord.
Voilà,
Bon ben
plutôt
pourquoi
sympa.
pas. Non, c'est
Ouais, c'est
cool.
très cool. C'est très sympa. Puis ils font un peu des apparitions Robot Chicken. Il y avait eu justement, je sais pas, pour marquer le coup, une variante cover spéciale Robot Chicken sur un
C'est
numéro
vrai.
d'Aquaman. C'est qui
Qui
était
était
très
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 drôle.
drôle. C'était génial. J'aimerais bien avoir des variantes Robot Chicken. C'est quand même vachement
Et
marrant,
peut-être qu'ils vont utiliser aussi des jouets Musclor pour faire un crossover dans Robot
quoi.
Chicken avec DC, Musclor et compagnie, comme ils jouent
Eh
avec des
ben,
petites figurines.
d'ici 2014, en tout cas, oui, le crossover sera fait.
Donc voilà, on l'aura peut-être aussi dans Robot Chicken.
Bon, en tout cas, ouais, superbe série que Robot Chicken, et même si ce ne sont pas des épisodes de comics, ils y font souvent, très 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 souvent référence, donc voilà, une très bonne série bien caustique sur le milieu de la télévision et de l'univers geek en général. Continuons avec Disney, qui a, bon, c'était une rumeur pareille, qui avait déjà été un petit peu leakée il y a de ça quelques semaines. Big Hero 6 est bien le prochain long métrage, enfin en tout cas un des prochains longs métrages des studios d'animation Walt Disney et non pas Pixar, même si c'est tout en 3D. Big Hero 6, c'est ce comic de Marvel sorti en 98, scénarisé à l'époque par Steven T. Siegel et dessiné par Duncan Rouleau, qui travaille aujourd'hui notamment sur les dessins animés Marvel. En tout cas pour la branche Marvel Studios. Eh bien, donc on a eu un premier teaser de travail, notamment où l'on voit la ville de San Francisco. Voilà, je vais y arriver. Un mélange donc de Tokyo et de San Francisco, puisque Big Hero 6 était une équipe de super-héros japonais menée par Sunfire. Enfin menée, disons avec Sunfire.
Ouais, bah je suis pas du tout emballé moi perso par cette série, par ce film, mais bon, voilà, j'attends d'en voir plus.
En tout cas, voilà, le développement est vraiment lancé et apparemment la date de sortie, en tout cas la première date de sortie, serait, ça reste à prendre avec des pincettes parce que ça peut bouger, serait le 7 novembre 2014.
D'accord. Mais ils se tirent pas un peu une balle dans le pied en choisissant un truc très peu connu. Ils auraient pu faire un truc, je sais pas moi, avec les héros un peu plus
Mais
marquants.
ça dépend, parce que s'il vise vraiment les jeunes vont y aller, c'est du Walt Disney, les parents vont amener leurs enfants le voir. C'est une équipe qui, au niveau marketing, peut très bien se dériver en jouets. On peut très bien
Ouais,
faire une
bien
série,
sûr, ouais.
ensuite une série télé à diffuser sur Disney XD, où on pourra faire des dizaines d'épisodes. Marketingment parlant, pour un premier coup de Disney qui fait quelque chose de Marvel, vraiment avec le terme Disney, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, quoi. Une
Ouais,
équipe pas
peut-être.
trop connue, il laisse les gros noms à Marvel qui développent excellemment bien. Bon, moi j'ai envie de dire,
On verra.
j'attends de voir, quoi.
Ouais, on verra.
Flo, ça te branche ?
Je connais pas du tout les Big Hero 6, mais ça a l'air d'être un choix un peu étrange, en tout cas pour un long métrage aussi gros qu'un truc Disney. Enfin, je trouve ça un peu curieux, en fait. Donc oui, je visuellement le petit teaser là, a l'air joli. Enfin, ça sera de toute manière aujourd'hui en 3D, on fait des choses très bien. Mais voilà, je suis un peu
dubitatif,
voilà.
Je finirai juste par annoncer quand même le réalisateur du film, puisque je ne l'ai pas annoncé, ce sera Don Hall, voilà, qui a déjà fait pas mal d'autres longs métrages chez Disney. On continue avec les teasers, avec maintenant un teaser Lego. Lego qui n'en est pas à sa première incursion dans le milieu du cinéma, si on peut dire, en tout cas du long métrage, puisqu'il avait déjà fait un premier long métrage Lego DC Universe. Eh bien, ils reviennent avec un Lego Batman. Bon, dans ce petit teaser, on voit juste la Batcave et Martian Manhunter qui prévient Batman qu'il y a une crise.
Ouais. Bon, bah, c'est basé sur le jeu vidéo. Il y a même des cinématiques qui sont recyclées, donc.
Même principe que dans le DC, hein, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, c'est toujours joli et je pense que c'est un produit qui marche plutôt bien pour les enfants.
Pour les jeunes.
Ouais. Allez, on continue avec maintenant d'autres films un peu moins comics. Deadline, alors bon, ça reste une rumeur, a annoncé que Dungeons & Dragons va revenir au cinéma.
Oh.
Les frères Wayans.
Ils jouaient pas dans le vieux film pourri Dungeons and Dragons qui était sorti. Je sais pas si tu l'as vu, c'était tellement.
Il devait y avoir un des Wayans. Oui, je l'ai vu, malheureusement, puisque j'étais très longtemps joueur de D&D, donc je ne pouvais pas rater ce film. Bien mal m'en a pris, puisque moi je ne peux toujours pas me passer de cette idée qu'un voleur qui manie une épée à deux mains, ce n'est pas logique, hein. Il suffit simplement de regarder les règles. Quand on fait un film sur Donjons et Dragons, c'est quand même le minimum, je pense.
Le film sorti en 2000 ou 2001, je sais plus, enfin un truc comme ça.
Oui, avec le mec qui jouait le premier Jimmy Olsen de la série Lois et Clark dans le rôle principal. Et un Jeremy Irons qui en faisait le minimum.
D'accord. Bref,
c'était quand même très mauvais. Oui. Malheureusement, c'était très mauvais. Donc là, on va avoir droit à un nouveau film de Donjons et Dragons. Ce sera scénarisé par celui qui a scénarisé La Colère des Titans et Le Petit Chaperon Rouge, David Leslie Johnson.
Ouais.
Je sais pas si c'est franchement une bonne idée.
Je suis pas sûr, ouais.
Et en tout cas, ça devrait s'adapter. Ça devrait en tout cas en partie adapter de Chainmail, qui était un des premiers scripts qu'avait écrit Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, avant même la sortie de Donjons et Dragons. Voilà.
Ok. Bon, bah, à suivre.
Ouais, à suivre, voilà. C'est juste une première rumeur. Ça reste encore, pareil, à prendre avec des pincettes. Continuons toujours sur les rumeurs avec Shane Black, qui a, pareil, un nouveau film après Iron Man 3. Apparemment, ce serait encore un film à tendance comics, puisque ce serait une adaptation de Doc Savage.
Ah, ça, c'est intéressant. Un petit peu d'aventure et tout, c'est un héros assez charismatique.
Et ça fera peut-être oublier l'ignoble adaptation des années 80.
Ah, ça alors là, je la connais pas par contre.
Je sais plus si c'était fin 70 ou début des années 80, mais en tout cas, c'était atroce.
D'accord. Bon bah pourquoi pas. En tout cas, Shane Black était très bon sur Iron Man 3.
Je crois que le film Doc Savage a été chroniqué dans Escale à Nanarland.
D'accord. Ah oui, donc ça doit vraiment être très très mauvais.
Oui, il sait pas, je crois, c'est j'en suis sûr, il avait été chroniqué dans Escale à Nanarland. D'ailleurs, le doublage français, le mec avait un petit cheveu sur la langue. Le mec qui doublait Doc Savage. Terrible. Terrible. Bref. Bon, on attend de voir, ça reste encore une supposition, rien de vraiment confirmé pour le moment, c'est une info qui vient de variety.com.
D'accord.
Toujours à prendre avec des pincettes. Toujours dans la partie cinéma, mais cette fois-ci un trailer, le premier gros trailer de Ender's Game est sorti. Vous l'avez vu ?
Oui.
Oui.
Pas emballé, plus que ça. À part le fait de voir Harrison Ford dans un film de SF, donc du coup je me dis bon, ça va, il peut le faire encore dans Star Wars épisode 7. Enfin non, oui c'est ça.
Si, épisode 7.
Épisode 7, ça pourra peut-être le faire, mais sinon là le sujet du film me tente pas trop, voilà. J'ai pas trouvé ça excellent.
J'ai pas lu le bouquin d'Orson Scott, je dois dire que je suis assez...
En plus c'est un connard lui.
Enfin, il peut faire des bons bouquins.
Oui voilà,
c'est quand même un auteur de SF reconnu quoi. Et,
bien sûr.
Qui fait des best-sellers quoi. Donc j'ai pas tellement d'avis en fait. Le trailer m'a pas, bon, ça a l'air, ça fait SF visuellement, c'est plutôt correct. Donc voilà, j'attends sans grande impatience.
Bon, grosso modo, l'histoire très 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 succinctement résumée, après une attaque d'aliens qui ressemble un petit peu à des insectes, la Terre doit essayer de se défendre et elle, pour se défendre, elle essaye un nouveau plan, et c'est notamment prendre un enfant qui est surdoué, qui pourra peut-être trouver une stratégie qui permettra de vaincre définitivement ces aliens. Voilà, donc on va retrouver au casting, tu l'as dit tout à l'heure, Harrison Ford, mais aussi Ben Kingsley, que l'on voit actuellement à l'affiche d'Iron Man 3 dans le rôle du mandarin. La sortie est prévue pour le 1er novembre 2013. Moi, personnellement, après avoir vu ce trailer, ça me donne quand même envie de voir, quoi. Bon, le côté gamin me gêne un peu.
Oh, carrément.
Mais bon, j'ai quand même envie de voir. Ça a l'air plutôt joli, plutôt propre. Pareil, je n'ai jamais lu le livre, donc je ne me placerai pas sur l'histoire. Mais bon, ça m'a l'air plutôt sympathique. En tout cas, j'en attends de voir un petit peu plus avant de me prononcer sur si j'irai voir le film ou pas. On va terminer la partie ciné avec toi, Bruno, qui nous a mis sur le conducteur le retour de 24.
Oui, voilà, bah, c'est un petit clin d'œil à Benny, qui n'est pas là ce soir, mais qui aime beaucoup la série télé 24 heures chrono. Et il sera ravi d'apprendre qu'on retrouvera Jack Bauer l'année prochaine à la télévision dans une nouvelle série 24 qui s'appellera Live Another Day. Et qui, il n'y aura que 12 épisodes. Il n'y aura plus vraiment le concept du un épisode égale une heure. Mais par contre, bah voilà, on retrouvera les personnages de la saga avec a priori beaucoup de guest stars peut-être intéressantes puisque beaucoup d'acteurs voudraient jouer dans cette série. Bon, ça c'est un peu du langage promotionnel, on va dire. Mais bon, en tout cas, moi ça me fait plaisir de retrouver Jack Bauer. Donc l'année prochaine, j'attendrai ça avec impatience.
Apparemment, on nous annonce même aussi que à la suite de ce run de 24, on aura une mini-série qui s'appellera Wayward Pines de Shyamalan.
D'accord. Ah ouais, ça c'est intéressant.
Si j'ai nouvelle bien série, alors. Si j'ai bien lu le truc correctement, ou j'ai peut-être fait une confusion en lisant ça, c'est ça. Diagonale. Là.
Oui, c'est ça, oui, ça se passerait après 24. Mais ce serait pas dans l'univers de 24, mais c'est juste que Shyamalan créerait une nouvelle série, quoi.
D'accord.
Ouais, personnellement, 24, j'ai arrêté à la saison 3, je crois. Parce que honnêtement,
Les deux dernières sont pas mal.
Ouais, bon.
La 7 et la 8.
C'est quand même devenu un peu merdique.
Mais ça reste 24, la série qui m'a fait me passionner des séries télé quand même. Donc.
Ah, c'est sûr que je dis pas, les deux premières saisons, c'était une grosse claque, moi j'ai adoré. Mais après, voilà, voir des talibans, des trucs, je sais pas, le thème et puis le Jack Bauer qui défonce tout le temps.
C'est un super-héros. En même temps, c'est développé pour la Fox aussi. Hein,
ouais, c'est ça.
C'est, voilà.
Hein. Alors, c'est ultra militariste, c'est ultra
républicain forever, quoi.
Ultra américaniste, c'est bon, voilà. Le propos est vraiment unilatéral et c'est con parce qu'il y a une richesse. Alors peut-être il y a d'autres saisons qui sont bien, mais il y a une richesse dans le propos qui aurait pu être là et qui était pas là, quoi, à un moment.
Au niveau, en tout cas, il y avait de l'action et c'était du bon divertissement.
Oui, ça pète, ça c'est sûr.
C'est pareil, je me suis arrêté à la saison 2, j'ai vu le début de la saison 3, et puis j'ai arrêté par manque de temps, et puis après par manque d'envie aussi.
En fait, il me semble que la 5 était vraiment très bien, et puis
ce qu'on m'a dit aussi.
Ouais. Les deux dernières sont vraiment pas mal aussi, et il y a une bonne conclusion.
Mais j'ai tellement de séries à voir qui m'intéressent 10 fois plus que 24, que je pense pas être prêt à reprendre 24 pour le moment, en tout cas. Ouais, on va passer très vite à la partie jeux vidéo, une info qui était tombée après l'enregistrement de la semaine dernière, après le Weekly News de la semaine dernière, c'est l'annonce que Disney a signé avec EA Games pour développer ses prochains jeux Star Wars, sans forcément dire quand il y aura un jeu, ça ne veut pas dire qu'il y en a forcément un en développement dès maintenant, ou même pas sûr qu'il y en ait, mais s'il doit y en avoir un, ce sera EA Games qui va s'en charger.
Adieu LucasArts, depuis qui est mort.
Bah oui, de toute façon, LucasArts est mort. Il fallait
donc
trouver un remplaçant.
Maintenant, c'est Electronic Arts qui va s'en occuper. Donc, bon. Attendons de voir ce qu'ils vont faire sur le premier jeu Star Wars, estampillé Star Wars. Quoi.
Bah, ils éditent pas que des mauvais jeux. Après, les développeurs font un peu n'importe quoi. S'ils éditent SimCity et puis Crysis 3, les deux derniers scandales.
Il y a quand même eu Dead Space, qui était une trilogie plutôt bonne, qui se passe dans un univers un peu science-fiction futuristique. Bon, s'ils font un peu dans le même style pour du Star Wars, pourquoi pas, quoi.
Ouais, faut savoir par qui ça sera développé.
Peut-être, SimCity Star Wars, hein, va savoir. Tu développeras ta planète, ta twin et compagnie.
Battlefield. Ah, oh putain, un Battlefield de Star Wars. Oh mon dieu.
Bah ça, ça, les gens vont en rêver, hein.
Oh mon dieu. Ouais.
Et enfin, on termine cette partie jeux vidéo avec les premiers screenshots que l'on a pu voir du jeu Fables Wolf Among Us, jeu dont on avait déjà parlé il y a de ça quelques mois, qui avait été annoncé, jeu qui sortira sur le Xbox Live, le PlayStation Network, ainsi que sur PC et sur Mac. Flo,
c'est ça donne super envie, quoi.
C'est surtout que c'est aussi sur Mac, Flo.
Oui,
tu vas pouvoir, le prendre.
Certes. C'est très très beau visuellement. C'est pas du cel shading classique. On voit un petit peu les traits comme sur de la BD, quoi. On voit pas mal les traits, les détails en fait en traits. Mm-hmm. Donc c'est très très beau. Je trouve que ça respecte. On voit notamment Bigby Wolf. Je trouve que ça respecte vachement visuellement le travail de Buckingham et Layola. C'est
très proche, ouais, du graphisme que l'on peut avoir sur la BD. Sans être une exacte copie, on sent véritablement le style qui est respecté.
Ouais, c'est ça que je trouve super, quoi. C'est que quand tu regardes les images fixes, on dirait un peu des images de BD, et savoir que ça va bouger, et c'est, voilà. Je suis comme un enfant devant mon premier film au cinéma.
T'as le côté très coloré, dans les années 20.
Les images qui bougent.
Voilà, donc c'est développé par Telltale, bien sûr, ceux qui ont fait d'autres jeux épisodiques, hein, comme on avait Retour à le futur, par exemple. On avait les Sam & Max aussi, je crois, qui étaient développés par Telltale.
Ouais. Oui. Et puis le dernier Walking Dead, The Game, hein, tout de même, qui est le gros cartoon.
Oui, mais c'était. Je voulais citer les autres avant, voilà. Avant que les gens, parce que les gens, tu vas leur citer Walking Dead, ils vont s'arrêter là-dessus.
Énorme succès critique ouais. Du jeu Walking Dead.
Énorme succès brunoïen.
Oui, bah c'est super bon. Hein. Ça va sortir en boîte courant du mois de mai, il me semble, en France aussi.
C'est en exclusivité chez Micromania.
Non, ça c'est faux en fait.
Ah bon?
Ça sera disponible aussi chez d'autres vendeurs, mais
ah oui. Micromania ils ont pas une exclusivité a fait pas mal... de quelques semaines ou quoi, parce que oui, c'est eux qui ont fait.
Je sais pas. En tout cas, j'ai mon revendeur bordelais indépendant qui dit qu'il l'aura et qu'il y aura aucun souci.
Et bah allez chez le revendeur indépendant.
Voilà.
Alors, bon, très vite sur le jeu, ce sera bien sûr un jeu à épisode, hein, comme la même formule qui est avec tous les jeux dont j'ai parlé juste avant. L'histoire se placera avant le début de la série Fable BD, et on jouera le rôle de Bigby, d'où le nom The Wolf Among Us. On jouera le rôle de Bigby Sheriff, qui doit résoudre des enquêtes, hein, tout simplement. Notamment un des trois petits cochons qui volent des voitures... qui sera présent dans le jeu, mais on a aussi Mr. Todd qui vole des voitures. Enfin bref, il y aura pas mal de choses. Ça a l'air plutôt agréable. Franchement, ça a l'air vraiment sympa. Fable a le vent en poupe.
Ouais.
C'est une bonne chose.
Ça fait deux fois qu'on dit vent en poupe. Donc trois maintenant. Ouais.
C'est vrai? Ah merde.
Non, mais c'est pas grave.
Pas fait exprès. Messieurs, avez-vous un bash de la semaine avant de passer à notre partie Comics.com?
Non, pas de bash.
Mon seul bâche, c'est que je suis rentré de vacances et que c'est de la merde, le travail.
Ah, t'es pas content de retourner à Paris?
Mais non, je suis content de vous retrouver, vous.
Ah, ça fait plaisir.
Je suis content de vous retrouver au boulot et de retourner à Paris. Mais je suis content de vous retrouver. Voilà, c'est mon bâche.
Un podcast de Comic City, c'est un petit peu toujours les vacances.
Oui, et puis c'est un rayon de soleil.
Oh là, c'est beau.
Ça me... Deux fois par semaine.
Oui, c'est ce que j'ai dit, deux fois.
Ah, j'avais compris une fois, pardon.
Non,
excuse-moi. Allez, on passe à la partie Comics.com et on commence avec vos mails. Vous avez été encore très nombreux à nous écrire. Vraiment.
Merci
beaucoup. Ça nous fait toujours très plaisir de recevoir autant de mails. On va essayer de répondre un petit peu à tout le monde. On va essayer de faire aussi très vite puisqu'on a déjà un petit peu dépassé le temps. Premier mail de Tohad qui nous dit « Bonjour à l'équipe de Comic City. Je me permets de vous contacter pour vous présenter le site dédié à la lecture des Voisins du Chaos, une BD française gratuite à lire en ligne dont je suis l'auteur. » Le Voisin du Chaos n'est pas un blog BD, mais une saga d'aventure fantastique dont les épisodes sont publiés toutes les deux ou trois semaines. Les deux premiers tomes sont déjà disponibles à la lecture sur le site lesvoisinsduchaos.com. Franchement, très facile à trouver, tapez Les Voisins du Chaos, au pire dans Google, vous trouverez. Chaque tome comporte une soixantaine de pages en couleur dans une présentation optimisée pour le visionnage sur le web. Le site ne comporte ni publicité, ni sponsor. Il est le résultat d'une envie de rendre accessible mon travail et mon univers aux lecteurs sans être retenu par les diverses contraintes éditoriales inhérentes à une diffusion classique. Voilà, j'ai également souhaité apporter un maximum de confort à la lecture en ligne par un système simple et intuitif. J'espère que ma BD attirera votre curiosité. Et donc, il nous dit cordialement. Mais voilà, toi, nous, on a été voir ce que tu faisais. Ça nous a plutôt plu. Franchement, on a vu ça, c'est vraiment très sympa. Le fait que ce soit aussi gratuit, c'est quand même un pari osé. Il y a un système de dons pour ceux qui ont envie de contribuer au projet et de te soutenir. Et j'encourage tous les auditeurs de Comic City à aller regarder Les Voisins du Chaos, aller lire la BD, c'est disponible gratuitement. Faites-vous plaisir et si ça vous plaît, soutenez un petit peu le projet de Toad parce que c'est vraiment très sympathique. Personne a quelque chose à ajouter, Bruno. Je sais que t'as été.
Non, c'est une très bonne initiative et ce genre de blog BD, ça fait plaisir. C'est de la lecture gratuite et intéressante et non, c'est vraiment chouette.
Ouais, c'est bien foutu. Enfin, franchement, honnêtement, c'est très pro quoi. C'est très pro. Visuellement, c'est pas mal. J'ai lu que les premières pages, donc du coup, je suis un peu. Mais enfin, les premières pages sont un peu intrigantes, donc je vais lire la suite. Je vais voir la suite, comme on dit dans un bon Comics Weekly.
Deux tomes de sortie. Le prochain est déjà prévu sur le site. N'hésitez pas. Vous avez de quoi lire. Franchement, c'est en plus découpé en petits épisodes, ce qui fait que si on n'a pas le temps de tout lire d'un coup, on peut revenir et reprendre très facilement la lecture. Non, franchement, c'est super sympa. Allez, on passe à la suite. Alors, on a reçu un mail de cerveau qui s'adressait notamment à Benny par rapport à son mail de la semaine dernière qui était un petit peu critique. On en reparlera la semaine prochaine puisque Benny n'est pas là cette semaine, autant répondre directement par Benny. Mais t'inquiète pas, on ne t'oublie pas, cerveau, et on te fait passer ton mail la semaine prochaine.
Il pourra t'insulter en direct.
Un mail de Tim maintenant, Bruno.
Oui, 100% Comics Season 1 X-Men, c'est le sujet de son mail, donc c'est très court. Bonjour, savez-vous si la suite au 100% Comics Season 1 X-Men est prévue? Et si oui, pour quand? Merci cordialement, Tim.
Écoute, c'est simple, Tim, la réponse, pour le moment, les Season 1, il n'y a qu'un graphic novel, quel que soit le Season 1, il n'y a pas d'épisode 2, en tout cas de prévu pour le moment, enfin, ou alors j'ai complètement raté l'info, mais on nous sort des Season 1 sur plein de personnages différents, qui sont un petit peu un point d'entrée permettant de connaître, en tout cas de voir un petit peu les débuts, certes modernisés et légèrement changés, mais ça permet de prendre un petit peu l'essentiel du personnage et de pouvoir le découvrir. Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de deuxième volume de Season 1 prévu à aucun de ceux qui y sont parus. Donc, si le Season 1 X-Men t'a plu, j'ai envie de dire peut-être te diriger vers d'autres Season 1 ou alors te diriger vers les séries X-Men régulières.
Ou alors, puisque... tu disais le Season 1 X-Men, ça faisait quoi? Ça faisait les trois premiers numéros d'X-Men? Tu peux commencer à X-Men numéro 4 qui date d'il y a je sais pas combien d'années.
Qui date de 1960 et quelques, mais...
Voilà.
Oui, c'est aussi une possibilité, effectivement. C'est vrai qu'à la base, ce sont plus des produits d'appel. Si le succès est au rendez-vous, peut-être qu'ils sortiront des deuxièmes tomes, mais pour le moment, en tout cas, rien de prévu. On continue avec Flo qui va nous lire un mail de Jokito.
Oui, donc bonjour à tous. Je souhaitais vous remercier pour m'avoir donné envie de lire des comics en VO. Je reste un peu admiratif. Mais juste un peu. Et je me demande si je pourrais faire un podcast à mon tour sur les comics. Je vous ai même contacté lors du Comics Weekly 108. Suite à la C2E2, pourquoi pensez-vous que Cyborg ne peut pas avoir sa propre série? Je vous propose un site, donc c'est un article sur Comic Vine, qui nous décrit un petit peu pourquoi ça serait une bonne idée que Cyborg ait une série régulière. Est-ce qu'un retour de Ghost Rider dans le Marvel Now est possible? Et pour finir, j'aimerais découvrir le personnage de Punisher, mais je ne sais pas où commencer. Avant d'en finir, je tenais à partager cette blague. Quand sont apparues les fenêtres durant la préhistoire, parce que fenêtres. Bon. Sur cela, je vous remercie encore pour tous ces podcasts et bonne continuation.
Je pense que c'est une blague qui aura fait extrêmement plaisir à Benny quand il écoutera cette émission. m'a fait bien rigoler.
On a un très bon compétiteur.
Alors, on va répondre aux questions dans l'ordre. Tu te demandes si tu pourrais faire un podcast à ton tour sur les comics. Je t'encourage à t'y essayer. J'ai envie de te dire, te lance pas dans cette galère. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Donc, ça fait presque 5 ans que ça dure. Sortez-moi de là, pitié. Non, je plaisante. Mais écoute, lance-toi. Et puis, si tu te lances, n'hésite pas à nous envoyer le lien. On ira écouter ce que tu fais. Ce sera avec un grand plaisir.
Plaisir, ouais.
Maintenant, passons au vraie question comics. On avait dit, c'est vrai que Cyborg ne pourrait pas soutenir son propre titre. Tu nous envoyais un article de Comic Vine qui, justement, donnait des arguments pistes. Contraires, qui expliquaient pourquoi lui, pourquoi eux, en tout cas chez Comic Vine, pensaient qu'il pouvait soutenir son titre. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer un petit peu à dire pourquoi, rappeler peut-être un peu les arguments de pourquoi il pourrait pas soutenir son titre, si vous êtes plutôt d'accord avec ça, ou pourquoi il pourrait le soutenir?
Moi je pense qu'un titre Cyborg aurait clairement sa place dans les New 52 si on enlève d'autres séries qui sont un peu moins intéressantes, puisque c'est quand même un des personnages clés de la Justice League. Des séries comme Vibe et Katana sont très sympathiques, mais c'est quand même des personnages un peu moins connus et peut-être intéressants que Cyborg. Moi je trouve que Cyborg c'est un bon perso, et c'était quand même un chef des Teen Titans plutôt charismatique, donc si on retrouvait un peu cette veine là, ça pourrait être cool quoi.
Ah oui, c'est un personnage déjà important dans les New 52, même s'il est sous-exploité malgré le fait qu'il soit présent dans la Justice League. Ensuite, j'ai pas encore lu malheureusement les Teen Titans de Wolfman et Perez, ni les Teen Titans de Geoff Jones, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Je ne connais pas les histoires qui ont déjà été faites sur lui, mais ça a beaucoup de potentiel parce que voilà, son histoire un petit peu tragique. Il y a plein de réflexions sur le transhumanisme, sur le fait qu'il voilà qu'il perde un petit peu son humanité. C'est un personnage riche quoi en termes d'histoire. Donc il y a évidemment moyen de faire une série plus que Vibe, hein, clairement quoi. Il y a clairement moyen de faire une bonne série.
Je suis d'accord avec vous, il y a des bonnes histoires, il a un background riche, il a des personnages qui gravitent autour de lui. Dans cet article sur Comic Vine, il y avait quand même un argument qui est peut-être pour moi le seul argument qui tient la route, qui est qu'il n'y a pas d'oracle dans ce nouveau DC Universe façon New 52. Effectivement, Cyborg pourrait très bien prendre ce rôle d'oracle.
Oui, il est omniscient, il a accès à toute la technologie, tout ce qui se dit sur Internet, effectivement, il pourrait jouer ce rôle.
Voilà.
Tout en étant toujours le chauffeur de taxi de la Justice League.
Maintenant, voilà. Déjà, tu me donnes un argument. Pour le moment, c'est surtout un téléporteur.
Bah, c'est ça le problème.
Il sert un peu qu'à ça. Il sert aussi à donner des infos. Et franchement, avoir un mec qui te donne des infos pendant 22 pages. Si Oracle n'a jamais eu sa série régulière, c'était pas pour rien. Et puis, enfin, vous
il
l'avez
noir,
dit
hein.
aussi.
Ah, pardon.
ça peut être un argument, puisqu'on voit que les personnages blacks se sont quand même plantés, hein, dans ce New 52. Static Shock s'est planté.
Heureusement qu'il y a Batwing, hein, encore.
Il reste Batwing, ouais, mais Batwing vend pas des caisses, hein. Excuse-moi, Batwing, il a failli être annulé, il a été repris mais vraiment de justesse par Palmiotti et Gray en changeant le personnage principal. C'est quand même pas la preuve que ça marche.
Bah, mais c'est bon, quand même une série qui vend pas. C'est quand même chiant qu'il n'y ait pas de personnage noir.
Je suis entièrement d'accord. Les lois du marché font que bah voilà, les personnages noirs ne marchent pas.
Peut-être que c'était de la merde aussi, quoi. Enfin, je veux dire, bon.
Bah, oui, après, les histoires peuvent être très mauvaises aussi.
Bah alors.
Le simple fait déjà qu'on dise que c'est un personnage noir, ça prouve que on voit encore cette différence.
Bah oui, non mais bien sûr. Ah oui, moi pour moi en plus Cyborg c'est vraiment pas du tout la caractéristique principale du mec quoi, honnêtement. Mais
après ce que je voulais dire c'est dans la New 52 ils ont développé pas mal de choses par rapport à justement le père de Cyborg, les autres chercheurs qui jusqu'à présent en fait on les voit un petit peu dans l'ombre comme Moreau, Anthony Ivo. Il pourrait créer peut-être quelque chose en rapport avec ça et revenir justement, on parlait des Metal Men aussi, de les réintroduire, on parlait du retour de Red Tornado, ça pourrait être dans une série justement autour de Cyborg, le côté un peu technologique, et ça pourrait un peu contrebalancer ce que fait Marvel avec sa future série Avengers AI, donc voilà.
Mais c'est bien le problème, c'est que Cyborg seul ne fonctionne pas. Vous le dites vous-même, il lui faut un casting autour.
Ah ouais, oui, ah mais oui, mais tout
pourquoi
à fait.
Il y a une série.
Toutes les séries tournent autour d'un casting élargi. Enfin, je veux dire.
Non. Enfin,
bah,
t'as pas besoin
Batman,
d'avoir 50
c'est Robin,
personnages.
C'est aussi tous les autres personnages autour, quoi. Mais
tu n'as pas besoin d'avoir 50 personnages pour faire une série. Et moi, c'est le problème avec Cyborg, c'est que Cyborg fonctionne très bien en équipe. Il avait un rôle très intéressant lors des différentes incarnations de Teen Titans, mais à chaque fois qu'il y avait un épisode, parce que j'en ai lu quand même pas mal des Teen Titans, à chaque fois qu'il y avait un épisode sur Cyborg uniquement, je me faisais chier.
D'accord.
C'est un personnage c'est le John Stewart, c'est le John Stewart terrien, qui est toujours en train de se plaindre de sa condition de cyborg parce qu'il est moitié les plus humains, etc. C'est comme Red Tornado. Oh, j'ai envie de sentir ce qui se passe.
Imagine
machin.
Le mec, il a peut-être même plus de bites, quoi.
Et qui finit explosé à chaque épisode.
Mais je crois qu'il n'y en a plus. Hein.
Donc voilà, moi pour moi c'est pas un personnage qui pourrait soutenir son propre titre. Après, je ne demande qu'à être surpris, je ne demande qu'à me tromper. Qu'on me sorte un titre Cyborg et que je dise que c'est la meilleure chose que j'ai jamais lue, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire je me suis trompé, c'est génial. Malheureusement, j'y crois absolument pas. C'est comme Katana et Vibe, ce sont des séries qui vont pas tarder à s'arrêter.
Ouais, faut mettre Matt Kint ou Jeff Lemire sur Cyborg et puis hop.
Ouais, ou Charles Soule. Ces auteurs-là, c'est des auteurs qui... Enfin, Charles Soule, je parle de Charles Soule parce que par exemple, il a repris Swamp Thing et il en tire l'essence, quoi. Il fait que le personnage se pose des questions. Je trouve ça vachement riche. Et c'est pour ça que je vois, c'est vrai, des mecs comme Lemire, Fox ou Soule qui ont des... un peu ce genre d'approche sur les personnages.
Ben voilà, il faut une approche plus indé, plus dark, plus sombre, et surtout...
plus intelligente, ça demande un truc, c'est un comics qui demanderait plus de réflexion.
Et puis surtout, ne pas annuler la série au moindre signe de mévente, forcer, la laisser là. Il y a 52 titres, et bien on peut bien laisser une série pendant quelques mois qui ne vend pas, ils le font déjà bien avec des projets comme Batwing, qui n'ont, en tout cas pour moi, aucun intérêt... et plein d'autres séries d'essais, je vais pas m'amuser à citer tous les projets sans intérêt sur les 52 parce qu'on va y passer la nuit, mais voilà, il pourrait très bien forcer la série à ce qu'elle reste sur le marché. Au bout d'un moment, elle trouvera son public, hein. Bref, voilà un petit peu nos avis sur Cyborg, puis n'hésitez pas vous aussi auditeurs à participer dans les commentaires, à dire pourquoi vous pensez qu'il pourrait soutenir une série ou pourquoi vous pensez qu'il ne pourrait pas soutenir sa propre série. On continue très vite avec les autres questions de Jokito. Est-ce qu'un retour de Ghost Rider dans le Marvel Now est possible?
Bah oui.
Non. Tu dis oui, Bruno?
Oui, mais je dis oui dans le sens où on l'a toujours pas vu depuis un moment, mais on va le revoir quelque part. Il aura pas son propre titre, mais on va le revoir quelque part.
Pour moi, Ghost Rider aurait sa place dans l'équipe des Thunderbolts, un peu époque Midnight Suns.
Ça pourrait être sympa, ouais, dans les Thunderbolts, effectivement.
En termes de série seule,
ah oui, non,
je suis
ça, je pense pas.
Toutes les séries Ghost Rider ces derniers temps se sont plantées. La dernière série de Rob Williams s'est plantée aussi, n'a duré que 9 épisodes. Bon, faut dire, changer le porteur du Ghost Rider, c'était pas une bonne idée. Le remplacer par une femme, c'était encore moins une bonne idée. Parce que la féminisation des persos, ça devient lassant. Donc voilà. Bon, ce qu'il avait fait était pas trop mal, mais ça tenait pas la route, quoi. Donc, à mon avis, l'époque des grands runs de Ghost Rider, comme on avait eu notamment dans les années 90, c'était un autre marché. Je suis d'accord, mais c'est terminé. Et je pense pas que Marvel prendra de risque à relancer Ghost Rider. Après, je peux me tromper. Mais bon, à mon avis, c'est une série qui finira comme Morbius au bout de 7-8 épisodes, voire 9, s'arrêtera très vite. Flo?
Non, c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout, qui m'a jamais intéressé.
Et puis, on va pas se nier, hein, les échecs commerciaux qu'ont été les deux films au cinéma donnent pas envie d'aller choper le titre.
Non,
pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage qui verrait Ghost Rider, il va repenser au film, il va se dire bah non quoi.
Ouais, mais par contre, comme ils ont récupéré les droits à Marvel, peut-être que Ghost Rider fera son apparition dans la série Shield et du coup reviendra un peu à la mode, je sais pas.
Peut-être, mais voilà, Marvel aura intérêt à dérider le truc plutôt que le laisser tel quel, en tout cas en termes de médias autres que le comics, avant de pouvoir ressortir une série pour qu'elle marche.
Ouais, tout à fait.
Enfin, il nous demandait, il aimerait découvrir le personnage de Punisher, mais il ne sait pas par où commencer. Bah, pour commencer le Punisher, simplement, les run max, hein. Le dernier run de Jason Aaron, ou le Punisher max de Garth Ennis. Ce sont vraiment les choses les plus simples, les plus faciles à trouver, et qui te donneront une très bonne image du Punisher, enfin, en tout cas, de l'essence même du personnage.
C'est adulte. C'est.
Ah, cependant, c'est adulte, effectivement.
Le Punisher de Ruka, hein, qui est assez récent. Et... pas très long.
Pour commencer le Punisher, moi je le conseille pas. Je pense qu'il faut connaître un petit peu l'essence même du personnage, puisqu'on a ce personnage de Calvin Cole. C'était Calvin qu'elle s'appelait?
La meuf qui était avec elle.
Qui était
lui,
Cole,
ouais.
En tout cas. Bon, c'était Cole, son nom de famille, qui est finalement... ça retouche à l'essence du Punisher, mais je pense qu'il faut connaître le Punisher un petit peu pour pouvoir apprécier le fait qu'il est une espèce d'assistante, qui va devenir un peu comme lui, etc.
Ou alors tu commences avec le Punisher dans l'espace qui va sortir bientôt chez Panini et qui est très très drôle.
Non, bah moi je conseille la mini-série Punisher Born, donc la première mini-série Max
de Garth Ennis,
et Derek Robertson, et ensuite il a enchaîné sur celle de la série régulière Punisher Max, pour beaucoup d'épisodes, et ça a été terminé par Jason Aaron. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux en Punisher.
Alors, le Punisher Max de Jason Aaron se plaçait un peu dans une autre continuité. On est dans un Punisher un peu différent, mais si tu veux vraiment débuter le personnage, voilà, ce sont deux runs qui sont quand même à part.
Faut pas commencer par Jason Aaron, pour moi, faut commencer par Ennis.
Voilà, ce sont deux runs qui sont un petit peu à part du Marvel Universe, c'est dans la collection Max, donc pas forcément en lien avec la continuité, mais c'est ce qui est peut-être le plus facile à appréhender. Voilà. On va passer au dernier mail de cette semaine, c'est un mail d'Oslo, et c'est oui. Bruno qui va nous le lire, parce que moi je me repose.
Hello la team, je profite d'un peu de répit pour vous adresser un petit mail de félicitations. Vous faites un boulot génial, et les podcasts sont d'une qualité dont beaucoup de soi-disant sites pro pourraient s'inspirer. Je tire notamment mon chapeau à Steve, que je trouve particulièrement brillant au micro, et je ne dis pas ça seulement parce que moi aussi j'écoute du hard rock. Mais au-delà de cela, c'est toute l'équipe qui assure, vous vous complétez, et c'est une joie que de vous écouter et d'apprendre des choses. Je suis un vieux jeune lecteur de comics. Je ne vous ai découvert que récemment, mais depuis je mets les bouchées doubles pour écouter les podcasts disponibles depuis le début. J'en suis à l'été 2012, autrement dit à la bourre, mais au rythme d'écoute ça va vite se rattraper. Car comme tous les geeks ne sont pas tous les mêmes, je vous écoute principalement en faisant du sport. Je cours plus de 12 heures par semaine, ce qui laisse pas mal de temps pour profiter des podcasts tranquilles sur la route. Bonne continuation à vous et encore bravo. PS, comme j'ai plusieurs mois de retard, j'ai récemment commandé le TPB de Resident Alien chez Dark Horse suite aux recommandations de Steve dans une review de 2012 et je ne le regrette pas. Merci pour le tuyau. Ciao tutti, Oslo. Bah, ça fait plaisir.
Bah, déjà, vraiment un grand merci pour tous ces compliments. Merci aussi pour tous ces compliments qui me sont adressés. Je suis très content que Resident Alien t'ait plu. Moi, j'ai vraiment trouvé cette mini excellente et j'attends, parce que normalement il doit y avoir une suite, j'attends avec impatience la suite. Parce que c'était du très très grand boulot, une superbe mini-série de chez Dark Horse. Que dire?
Merci, c'est vraiment cool, quoi.
Que tu es fou de faire du sport.
Ah bah non, il faut qu'il en fasse. Enfin, c'est bien. Faut faire du sport un peu.
Que le sport, c'est le mal, ça fait des courbatures, tout ça.
Ouais.
12 heures par semaine, non, franchement, je te tiens à
12 heures, ça fait beaucoup. Et pour courir, oui.
Je n'aurais jamais cette patience.
J'arriverai pas, moi non plus.
Et que tu es fou aussi de réécouter tous les podcasts depuis le début parce que la qualité était quand même pas toujours au rendez-vous. Je suis très content que la qualité plaise un petit peu à tout le monde. C'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent, que la qualité s'est améliorée. Et bah tant mieux. C'est vraiment ce que l'on cherchait.
Bah, merci.
Bruno, oui, t'allais dire quelque chose.
Non, j'allais dire merci Oslo. Hein, ça fait vraiment plaisir à lire tout ça. Donc c'est cool. Continue à nous écrire des mails, gentils, méchants, tous les types de mails, on s'en fout. Mais voilà, on les lira à l'antenne.
Ouais, tout ce qu'on demande, c'est pas de mails d'insultes, puisque ça, bien sûr, non, ça ne passera pas à l'antenne. c'est la seule chose. Vous pouvez ne pas aimer ce que l'on fait, vous pouvez nous le dire, on l'acceptera, il y a pas de souci. Mais si c'est pour dire qu'on est des gros cons, qu'on aille se faire enculer.
Voilà. Non, ça c'est pas la peine.
On peut déjà le dire nous-mêmes.
On fait ce qu'on veut de notre vie de toute façon. Donc.
Voilà. Non, mais voilà. Enfin, clairement, les messages d'insultes pures ne passeront jamais à l'antenne.
Mais à vrai dire, Steve, pour l'instant, on en a jamais reçu, non?
Jamais reçu. Non, honnêtement, on en a jamais reçu. Mais bon, voilà, je le précise.
on va recevoir tout d'un coup parce qu'ils vont se dire ah putain, ils en ont jamais eu.
Bon on en recevra, mais ils ne passeront pas à l'antenne. Et dernière chose à Oslo, c'est bien d'écouter du hard rock. Le hard rock, c'est la vie. Voilà.
Ouais, on te plaint.
Au moins tout ça, tu vois. Bref, on vous remercie chaleureusement vraiment de tous ces mails, de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine. C'est vraiment, vraiment un superbe plaisir pour nous de découvrir des petits mails qui arrivent dans la boîte, de voir que les stats gonflent. Enfin, voilà, c'est vraiment...
Elles gonflent depuis que je suis arrivé, quoi, globalement, c'est ça.
Hein. Genre, comment tu te la fêtes, Flo?
En tout cas, vraiment, ça nous fait chaud au cœur et ça nous aide à continuer à vouloir nous améliorer à chaque fois pour vous plaire encore plus et séduire encore plus de monde. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à faire tourner Comic City aussi,
faire un petit peu de
pub pour le site, puisque finalement, c'est aussi par le bouche à oreille que ça marche, tout simplement. On va se retrouver donc la semaine prochaine pour une prochaine dose d'infos dans un Weekly News. Et bien sûr, en fin de semaine, vous aurez le Comics Weekly avec les reviews des sorties de la semaine en VO. D'ici la semaine prochaine, comme d'hab, vous nous suivez sur Facebook. N'hésitez pas à participer au concours pour gagner des entrées à Geekopolis, des passes pour les deux jours du festival qui se tient le 25 et 26 mai, je le rappelle, à Montreuil. Et puis bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Et nous envoyer des mails, comme tout le monde, à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et puis, si vous avez envie, comme Oslo, de réécouter tous les anciens épisodes, c'est tout à fait possible sur le site
Allez-y.
Ou sur iTunes. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Ouais, à très bientôt tout le monde.
Bisous.